Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invitée politique ce matin est Nathalie Guillot-Viera, elle est déléguée départementale du Rassemblement National du Morbihan et elle est venue du Morbihan précisément pour être donc très tôt ce matin avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane et merci de cette invitation. C'est malgré la route et le mauvais temps, c'est un très grand plaisir de venir chez vous.
Voilà, nos invités bravent le mauvais temps très souvent pour être là et parfois même les difficultés routières. Des difficultés, il y en a aussi en politique actuellement. Ça ne vous aura pas échappé avec une situation politique très compliquée, un paysage politique très fracturé, un petit peu à l'image du paysage social français, on va y revenir, avec un budget qui doit être voté dans les jours qui viennent. Maintenant, il y a urgence. Et pourtant, on a le sentiment que ça ne va pas se faire.
Alors là, c'est le retour du budget de la Sécurité sociale après le passage au Sénat. Donc effectivement, aujourd'hui, le Premier ministre va à nouveau recevoir des représentants des partis politiques, notamment la gauche. Donc on peut s'attendre
à une forme de négociation.
Voilà, on peut s'attendre à des négociations telles que on les a connues au début du vote du budget. Je sais que François Bellamy a indiqué que si la suspension de la réforme des retraites revenait sur le tapis, c'était la censure. Donc on va voir ce que ça donne. Mais effectivement, là, on a l'impression qu'on repart encore pour des grandes discussions. J'allais dire verdict à la fin de la semaine. On peut aussi s'attendre à ce qui s'est passé dans la première partie du vote, c'est que l'ensemble des partis, à l'exception du Rassemblement National et de LFI, va vouloir maintenir, en tout cas les députés, maintenir leur poste à tout prix, au prix d'une instabilité qui perdure. Donc, j'allais dire... on attend encore quelques jours, mais effectivement, suspense ou pas suspense.
Voilà, le temps va le dire. Avec aussi une activité économique qui a ralenti, une inquiétude aussi des Françaises, des Français, des Bretons, des Bretonnes ici, sur leur avenir et puis sur leur pouvoir d'achat également. Il y a un grand ralentissement là.
Le pouvoir d'achat, et d'autant que, hormis justement le vote du budget, donc on a appris il y avait quelques jours maintenant que un décret devait faire augmenter la taxe foncière, donc j'allais dire presque en catimini. Donc, grâce au Rassemblement National, cette augmentation n'aura pas lieu. Mais on apprend également, il y a quelques jours, par décret également, une augmentation prévisible de 2 milliards des taxes sur les énergies, donc sur le carburant. Et même chose, hein, c'est Jean-Philippe Tanguy qui a découvert le poteau rose. Donc, en fait, encore une fois, en catimini, presque en cachette, on aggrave encore la situation des Français du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un Français sur trois n'arrive pas à boucler les fins de mois. On a une explosion des factures d'électricité. Hein. Depuis 2022, c'est 40% d'augmentation des factures d'électricité. Donc, le Rassemblement National, lui, veut améliorer le pouvoir d'achat des Français, notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella. Prône une baisse de la TVA, hein, de passer de 20 à 5,5% sur tous les produits énergétiques, donc le carburant, le diesel, l'électricité, le retour au prix français de l'électricité en sortant des règles absurdes, hein, du marché européen de l'énergie, également en permettant aux entreprises d'augmenter de 10% le salaire de leur personnel sans augmentation des cotisations patronales jusqu'à 3 fois le SMIC. Donc le Rassemblement National pense aux Français. Et d'ailleurs, si le Jordan Bardella et Marine Le Pen sont aussi hauts dans les sondages, c'est bien que les Français leur font confiance. C'est que les Français veulent l'alternance. Ils en ont assez de toutes ces magouilles politiciennes que l'on a vu ces dernières semaines, hein, l'Assemblée nationale avec le vote du budget. Donc les gens veulent Mal des politiques qui les écoutent. Jordan Bardella, qui parle beaucoup de son livre en ce moment. C'est vraiment le, concrètement, il écoute les Français et les Français lui font confiance parce que ils sentent que le Rassemblement National est à l'écoute et prend en considération les inquiétudes des Français. Pouvoir d'achat, insécurité, immigration. Donc, ce sont autant de sujets que, sur lesquels le Rassemblement National a un programme clair, une ligne claire dont il ne dévie pas.
Alors, on va en parler du programme dans un instant. Jordan Bardella qui s'est exprimé autour de d'une baisse possible de l'électricité en faisant un petit peu comme a fait le Portugal ou l'Espagne, en renégociant justement les tarifs de l'électricité pour que les Français puissent quelque part ne pas subir les hausses régulières.
Les Français et les entreprises également.
Et les entreprises, évidemment. Est-ce que ça va être facile de négocier avec Bruxelles parce qu'on sait que il y a quand même quelques barrières.
Alors facile sans doute non, mais la France est un pays qui est dans une situation privilégiée à Bruxelles. La France paye plus qu'elle ne reçoit. Donc à ce titre-là, elle doit avoir sa parole est souveraine. Sa parole est souveraine. Donc on le voit avec le vote, la signature du Mercosur. Le Rassemblement National prône la politique de la chaise vide. Et la France a une position qui lui permet d'affirmer son autorité et qui doit lui permettre de ne pas lui laisser imposer une politique qui lui est défavorable.
Alors, Jordan Bardella, on va en dire un mot, a subi une agression lors d'une signature de son livre. Agression assez violente, avec un œuf et un coup de poing, a priori. On sent qu'il y a un durcissement dans l'exercice politique actuellement, quelles que soient les positions, quelles que soient évidemment les sensibilités des uns et des autres. On a l'impression qu'un cran a été... là aussi, dépassé. Est-ce que, pour vous, c'est grave ce qui s'est passé ?
Bien sûr, c'est grave. Alors, hier soir, Jordan Bardella a été invité par Pascal Pro sur CNews et donc il revenait sur cette agression parce que c'est une agression. Alors il met en évidence deux choses. La première, c'est effectivement cette violence qui se concrétise, et la deuxième, c'est la banalisation, voire même ou les explications qui sont données par certains journalistes, il faut le dire, comme si c'était presque normal, puisque après tout c'est de sa faute, ce sont les propos qu'ils tiennent, donc ça c'est grave. Et ce qui est grave en fait, c'est le silence assourdissant des autres partis politiques. Il y a quelques mois, Prisca Thévenot avait été agressée et tout le monde, quel que soit le parti politique, à gauche comme à droite, tout le monde a pris sa défense. Et cette fois-ci, Jordan Bardella, non, à part Sarah Knafo, je crois, Glucksmann, Marion Maréchal, en tout cas ça n'a pas fait l'unanimité des bords politiques. Laurent Nunez a réagi un petit peu après, donc c'est très grave parce que ça survient après un enfarinement qui est sans doute moins violent, mais qui sur le fond est tout aussi grave. Et curieusement, quelques jours ou très 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 proche de du sondage qui indiquait la montée du Rassemblement National de Jordan Bardella dans les sondages. Donc effectivement, on sent une espèce de fébrilité. Et c'est inquiétant parce que la politique, ça se passe pas comme ça. Les gens doivent s'expliquer dans les urnes, et on doit combattre les idées, combattre les programmes, et on a l'impression que finalement, et je pense à l'extrême gauche, parce que cette violence, elle est quand même caractéristique de l'extrême gauche. L'extrême gauche n'a aucun autre argument que la violence, ou la violence physique, la violence verbale, traiter les militants sur le terrain de fascistes, et qu'on leur demande de s'expliquer, ils sont incapables de s'expliquer. Sans parler de récupération d'images qui sont souvent faussées. Donc on a l'impression d'un vide sidéral dans l'argumentaire et s'en prendre de façon physique aux politiques, ça c'est extrêmement grave. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus grave ? C'est l'acte ou alors l'absence de condamnation. C'est vraiment très inquiétant. Et effectivement, la campagne municipale qui se profile, qui approche à grands pas, on peut imaginer que dans certaines grandes villes, voire même des communes moins importantes. Tout est possible.
C'est le fait que le Rassemblement national progresse. Vous faisiez référence à ce dernier sondage qui met Jordan Bardella présidentiel au second tour, en l'occurrence. Selon vous, c'est ça qui cristallise la colère des autres camps ?
Très certainement. On voit depuis quelques semaines, notamment sur les réseaux sociaux, donc on voit quand même une expression de plus en plus... J'allais presque dire violente, parce que sur les réseaux sociaux, c'est également très violent. Et ça n'est jamais, on en a parlé tout de suite, on s'attaque jamais aux idées, on s'attaque aux personnes, on s'attaque jamais au fond, parce que finalement, les sondages donnent raison au Rassemblement national. Les Français, 11 millions d'électeurs aux dernières élections législatives, et tout laisse à penser que s'il y avait des élections aujourd'hui, ce serait encore beaucoup plus. Donc, on ne peut pas taire cette montée de l'adhésion. Et d'ailleurs, je parle d'adhésion, mais d'ailleurs, le nombre d'adhérents au Rassemblement national est énormément augmenté depuis quelques semaines également.
Justement, il y a peut-être la possibilité d'une motion de censure à l'Assemblée nationale qui sera déposée par LFI, a priori, dans les prochains jours. Le Rassemblement national, malgré les divergences, on l'aura compris, avec LFI, votera cette motion de censure ?
Comme la précédente, pour le Rassemblement national, l'objectif, c'est la censure. Donc, c'est pas parce qu'il vote la censure avec LFI qu'il adhère aux idées d'LFI. C'est le vote de la censure. Donc là, c'est assez simple, en fait. C'est mécanique. Bien entendu, il n'y a pas d'adhésion aux idées de LFI. Tout le monde l'a bien compris, d'ailleurs. Ce ne sera pas la première fois. Ce sera le troisième vote. S'il y avait un vote de censure avec LFI, ce serait le troisième vote. Et tout le monde l'a bien compris. Ça ne remet pas en question l'adhésion des électeurs.
Nathalie Guillot-Vieira, vous parliez tout à l'heure des municipales. On va y venir parce que c'est l'élection qui va précéder l'élection présidentielle. Ça va être une forme de test aussi, même si l'on sait que les municipales, en temps habituel, sont souvent décorrélées de la grande politique. Mais néanmoins, il y a aussi des préoccupations. On parlait du budget tout à l'heure. Les collectivités territoriales souffrent. Les mairies souffrent également. Et puis, il y a des enjeux. Vous avez évoqué la sécurité. On va en dire un mot également. Comment le RN se prépare pour ces municipales ? On a senti une forme de rajeunissement, de féminisation aussi.
Oui, alors... il y a depuis quelques mois, en fait, la préparation, elle a commencé, j'allais dire, presque, pas un an, mais pas loin. Donc, en fait, les candidats tête de liste qui ont l'intention, en fait, et qui ont cette volonté de présenter une liste, font connaître leur candidature. Et ensuite, le parti, via la Commission nationale d'investiture, investit officiellement les candidats. Donc, après toute une procédure d'investiture et d'audition, d'ailleurs une audition du candidat pour vérifier les connaissances de la personne sur sa commune, mais également sur les obligations d'un maire, parce que il est bien mis en évidence que le mandat de maire, c'est un des mandats qui est considéré comme le plus difficile. C'est pas un mandat de représentation, c'est vraiment un mandat de gestion. On y parle de finances, on y parle de transport, on y parle de social, d'école, donc le sujet est vaste.
C'est vraiment le terrain, là. C'est ce qui touche au plus près les Français.
Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi sans doute pour ça que le maire est aussi le premier exposé à la, j'allais dire, entre guillemets, à la vindicte populaire. On a vu des agressions de maires, d'ailleurs, beaucoup de maires qui démissionnent. Donc c'est un mandat difficile. Il faut constituer une équipe qui est solide et avec laquelle on se prépare à travailler pendant 6 ans. Donc c'est pas rien. Il faut vraiment travailler avec des gens avec qui on s'entend. Donc tout ce processus conduit à une investiture officielle des candidats. Donc aujourd'hui, sur le territoire national, ce sont 600 candidats qui ont été investis, ce qui est nettement plus qu'en 2020. Alors je pourrais pas vous donner le pourcentage de femmes ou d'hommes, mais effectivement,
on tend à la parité a priori.
Alors tout à fait, et effectivement, alors j'allais dire, il y a des jeunes et des moins jeunes, je pense que c'est assez varié. Et puis une présence dans toutes, en fait, dans toutes les communes, les grandes. Alors la volonté, c'est également, c'est effectivement d'avoir un candidat dans chaque préfecture. Hein. Donc pour le Morbihan, par exemple, on aura un candidat à Vannes, mais il n'y a pas de petites ou grandes communes. L'investiture du candidat est strictement identique dans une commune de 1000 habitants ou dans une commune de 100 000 habitants, parce que les obligations, les obligations sont les mêmes, la connaissance du maire doit être la même, et puis c'est assorti de formation toutes les semaines des candidats. Donc c'est vraiment chaque candidat prend sa candidature avec sérieux et le parti prend en considération la nécessité de former les candidats et moi je suis toutes les formations en tant que déléguée départementale pour également encadrer les candidats parce que j'apporte mon concours, je les soutiens moralement au moins et j'avoue que c'est passionnant en fait, hein, c'est passionnant.
Il y avait obligation aussi pour le Rassemblement National d'un peu cibler les candidats. On sait que pour les élections législatives, il y a eu quelques candidats, on pourrait employer un anglicisme un peu borderline, pour ne pas dire, qui ont quand même dépassé certaines limites. Il fallait là aussi les cibler, être prudent sur les nouveaux candidats.
Alors, il y a eu de la même façon que, d'ailleurs pour les municipales, c'est la même chose. Hein. C'est le principe de la Commission Nationale d'Investiture qui est très rigoureuse en fait sur le choix des candidats, que ce soit si un jour il y a prochainement des législatives, ce sera la même chose. Après, si on revient sur les entre guillemets brebis galeuses dont on a parlé, elles n'étaient pas si nombreuses et effectivement on a ciblé le Rassemblement National. Bon, le Rassemblement National sait qu'il n'a pas droit à l'erreur, les candidats savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, dont acte. L'avantage c'est qu'ils seront de très bons candidats parce qu'ils se forment d'autant plus qu'ils savent qu'ils doivent être très performants. Donc effectivement, l'investiture des candidats rentre dans cette logique. Alors, on aimerait que les autres partis en fassent autant. Je pense particulièrement à l'extrême gauche. Hein.
Alors, il y a des enjeux, évidemment, pour ces municipales. Il y a un programme aussi, on va en dire un mot. Les enjeux, c'est aussi de conquérir des villes, peut-être aussi des communes. On voit que le Rassemblement National a beaucoup progressé ici en Bretagne, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. C'est pas forcément la terre d'élection du Rassemblement National. Comment vous expliquez cette progression-là?
Cette progression, en fait, j'allais dire que elle arrive un peu après les autres régions, mais c'est inévitable parce que c'est le reflet d'une situation nationale. Les préoccupations en Bretagne sont les mêmes que, j'allais dire, dans le sud de la France, le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration, même si c'est moins prégnant. Je pense que les Bretons n'ont pas envie de voir, de voir arriver malheureusement, on parlait entre nous tout de suite du narcotrafic, du trafic de drogue. On le voit maintenant également en Bretagne. Donc de toute façon, les Bretons se rendent compte que ce qui se passe ailleurs peut aussi arriver chez eux. Donc si on veut s'en prémunir, effectivement aujourd'hui le Rassemblement National, une fois encore, je me répète, mais est le seul parti qui les écoute et qui leur propose, un remède qui pose le diagnostic, mais qui ne se contente pas de poser le diagnostic. On en a assez de ces politiques qui nous disent « nous condamnons avec la plus grande fermeté, ok, et maintenant on fait quoi ?» Non, nous on propose des choses.
Alors justement, en préparant cet entretien, on a évoqué le narcotrafic qui prend une place importante ici en Bretagne. Alors dans les grandes villes, certes, il ne s'agit pas de pointer telle ou telle ville, mais on le voit quand même à Rennes ou à Brest ou encore à Lorient. Justement, là, il y a un cap inquiétant qui est passé et il faut agir vite.
Alors, il faut agir vite. Alors, on a eu le vote de la loi narcotrafic il y a quelques mois. Le Rassemblement National a voté pour cette loi en appelant l'attention sur le fait que cette loi, de toute façon, était insuffisante. Donc, on le voit aujourd'hui. C'était un minimum requis, donc le vote a été acquis. Mais effectivement, maintenant, il faut prendre des mesures, beaucoup plus fermes, notamment reprendre la main sur nos frontières nationales. Quoi qu'en disent certains, l'immigration et l'insécurité, le narcotrafic sont liés. Les deux grands gangs de Marseille, ce sont pas des gangs français, ce sont des mafia des Algériens, un gang également africain. C'est également une politique répressive beaucoup plus ferme, rétablissement des peines planchers, c'est l'expulsion des délinquants, des criminels liés aux étrangers liés au narcotrafic, c'est la suppression des prestations sociales pour les délinquants liés au narcotrafic. Donc il y a des mesures fermes à prendre. C'est également, j'entendais il y a quelques jours justement par rapport à cette affaire de narcotrafic, un responsable syndical de la police qui disait il faut des procédures spéciales. En fait, il y a des dossiers qui n'aboutissent pas tout simplement parce qu'il y a des vices de forme, les procédures sont tellement complexes, les dossiers sont tellement nombreux, les magistrats insuffisants, les policiers insuffisants. Donc en fait, des dossiers sont, entre guillemets, passent à l'as parce qu'on n'a plus les moyens. Donc ce matin,
pour renforcer justement le
programme, le Rassemblement national prône également l'augmentation du nombre de magistrats et également bien entendu la création de 40 000 places de prison supplémentaires. On ne peut pas laisser les gens dans ce type de personnes dans la nature. Et puis effectivement, un système d'incarcération qui soit beaucoup plus ferme. On le voit donc avec la prison de haute sécurité qui a été créée par Gérald Darmanin. On entend quand même que certains grands narcotrafiquants mènent tiennent leur boutique de la prison. Donc ça c'est pas tolérable. Donc c'est urgent. C'est le combat, Jordan Bardella le disait il y a quelques jours, le combat contre le narcotrafic est existentiel. Et j'entendais à la radio en venant, la Belgique est pas loin de basculer dans un narco-État. Donc la Belgique c'est à côté. Hein. Mm-hmm. Donc,
Alors justement, il y a des grands faits sociétaux aujourd'hui. Ouais. On reproche beaucoup au Rassemblement national de stigmatiser l'immigration, de stigmatiser les personnes qui sont musulmanes. Alors on parle de personnes qui vivent leur vie ici sur le territoire, qui vivent, j'allais dire, comme tout le monde, tout un chacun. Est-ce qu'il faut faire attention à la cible, justement, ne pas se tromper de cible aujourd'hui?
Le Rassemblement national ne stigmatise ni les musulmans qui vivent leur religion sans vouloir nous l'imposer, ne stigmatise pas les étrangers. La priorité nationale qui est prônée par le Rassemblement national, ce n'est pas le refus de l'étranger, c'est de dire qu'un Français a des droits qu'un étranger n'a pas. Et on parle de priorité nationale, on ne parle pas de race, de couleur de peau, on parle de nationalité. En aucun cas, on ne stigmatise les étrangers. Et ça, c'est effectivement, c'est le raccourci qui est tellement, tellement facile pour nos détracteurs. Même chose, on parle de l'idéologie islamiste, le terrorisme islamiste. Je vous parlais du marché de Noël à Strasbourg. On a entendu quand même qu'une arme avec des munitions avait été cachée. Alors je sais plus exactement à quel endroit, mais en tout cas sur le marché de Strasbourg et à côté d'une aire de jeux pour enfants. Sachant ce qui s'est passé, je crois que c'était il y a 5 ans l'attentat qui a eu lieu à Strasbourg. J'étais moi-même au marché de Strasbourg mercredi. Comme vous voyez cette foule, mais malgré toute la sécurité qui est mise en place, on voit quand même qu'il y a une volonté de terreur, le terrorisme islamiste. Et il ne faut pas avoir peur de prononcer le mot.
Alors, je reviens au municipal pour gagner des villes, pour gagner également des communes. Est-ce qu'il va falloir que le Rassemblement national passe par une forme d'union des droites qui est appelée essentiellement dans le camp d'Éric Zemmour, par exemple, pour qu'il y ait cette union des droites qui irait éventuellement de LR jusque justement le parti Reconquête?
Alors, pour ce qui concerne les municipales, l'union des droites, ce sont des listes UDR et Rassemblement National. Aujourd'hui, c'est l'alliance, hein, qui d'ailleurs, on voit déjà beaucoup de listes qui sont...
Alors, UDR, c'est Éric Ciotti, on le précise. Voilà.
Ensuite, pour l'union des droites au sens plus large, Marine Le Pen et Jordan Bardella le répètent, le Rassemblement national n'a pas vocation à sauver la droite. Il a vocation à rassembler tous les patriotes, tous les Français, parce que le Rassemblement national, il soutient tous les Français. Si le Rassemblement national est élu, il le traitera tous les Français, ceux qui ont voté pour lui ou pas, de la même façon. Donc c'est vraiment le rassemblement des Français. Et pour les municipales, c'est donc le parti d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national.
Le Rassemblement national peut amener à une alternance dans des villes comme Rennes ou comme Brest, oui, par exemple. On peut l'imaginer, ça?
Alors, en tout cas, on ne peut que l'espérer, surtout à Rennes, quand on voit la situation. Donc, effectivement, l'adhésion massive des Français au Rassemblement national, c'est bien la preuve que les Français attendent une alternance. Elle est urgente. Ils en ont assez de ces 40-50 années de politique où finalement on fait tout et n'importe quoi, et puis qui nous a conduit à une situation aujourd'hui qui est catastrophique. Presque 3 500 milliards de dettes. 120% du PIB, un Français sur trois qui ne peut pas boucler ses fins de mois, donc c'est catastrophique.
On entend aussi des voix qui s'élèvent, qui sont pas forcément proches du Rassemblement national, qui disent aujourd'hui il va falloir mettre un peu d'ordre dans le pays. La question c'est comment faire. Et puis on voit aussi des Français qui ont besoin de trouver des repères dans une situation aussi géopolitique très compliquée. On a entendu beaucoup le président de la République cet an dernier avec la remise en place du service militaire. Est-ce que selon vous la France revient à droite? Jadis Georges Pompidou le disait, la France est à droite.
Écoutez, en tout cas, les résultats des votes pourraient laisser penser. Ça veut dire que c'est la droite qui incarne la sécurité et la droiture, une forme d'ordre. Alors le service militaire volontaire encore, effectivement 3 000 en 2026 pour atteindre 50 000 je crois en 2030. Alors c'est quand même un coût de 2,3 milliards d'euros.
Mais comment faire, parce qu'on a on a plus les infrastructures aujourd'hui. Alors, les casernes ont été vendues.
Alors soit remettre en état des infrastructures, et je crois qu'il faut 40% d'infrastructures à remettre en place, remettre en état, voire reconstruire. Et puis vous parlez des infrastructures, le taux d'encadrement c'est en principe 20%. Donc si en 2030 on a 50 000 volontaires, ça veut dire 10 000 militaires, mais on va pas les prendre sur l'effectif actuel, sinon on déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc je doute que ce soit l'objectif. Et puis est-ce qu'on va trouver suffisamment de volontaires? Depuis des années on inculque à nos jeunes à l'école, on leur enlève l'idée de la nation, on dénigre la culture française, notre identité. Quand on voit qu'on arrache le drapeau français dans les manifestations, est-ce que ces jeunes là vont vraiment avoir envie de faire nation? Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Pourtant, aujourd'hui il y a des jeunes qui s'engagent aujourd'hui qui s'engagent,
mais service militaire volontaire, 10 mois, 800 euros par mois, donc je crois que c'est de 18 à 25 ans. Écoutez, on va voir, ce serait sans doute très bien, mais ça veut dire aussi qu'il y a du travail à faire également au niveau de l'éducation nationale, parce que ça commence avant 18 ans, pour être volontaire à 18 ans, ça veut dire qu'avant, on nous a inculqué un sens des valeurs que je crains qu'il a beaucoup disparu, en tout cas dans les écoles.
Une dernière question, il nous reste à peine une petite minute. Est-ce que il faut avoir peur de la Russie aujourd'hui? Parce qu'on a senti ça quand même dans les propos, que ce soit du général Fabien Mandon, que ce soit là encore dans les propos du président de la République. Finalement, est-ce qu'il faut adopter une pensée un petit peu gaulliste en son temps, c'est-à-dire se préparer à la guerre, c'est-à-dire être prudent, être attentif à ce qui se passe à l'Est?
Alors, il faut toujours être prêt. La Russie est un grand pays qui a l'arme nucléaire, bien entendu. Il faut se préparer à toute éventualité. De toute façon, la France est un grand pays, c'est une nation souveraine qui a une grande armée et qui doit se préparer à défendre son pays. Mais aujourd'hui on parle de la Russie, mais la guerre elle est aussi sur le territoire. La guerre elle est, contrairement à ce que certains disent, la guerre elle est aussi intérieure.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Nathalie Guillot-Viera, déléguée départementale du Rassemblement national du Morbihan, était avec nous en direct ce matin au micro de la matinale. Je vous remercie d'être venue.
Merci,
je vous souhaite
Stéphane.
Une très belle journée.
Merci beaucoup.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.